Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le magazine du week-end, c'est samedi et dimanche, 1h20 de décryptage de l'actualité, aussi bien nationale qu'internationale. Nous sommes ensemble en direct jusqu'à 14h et pour toujours sur franceculture.fr à la réécoute et en podcast. Émission spéciale Défense nationale, évidemment, ce 14 juillet vers 13h15, nous évoquerons le Conseil de défense écologique qui s'est tenu mardi dernier. La transition écologique vient en effet bouleverser les enjeux de souveraineté et de démocratie. Pour répondre à ce défi, une convention citoyenne vient d'être lancée. Elle est pilotée par Laurence Tubiana et Thierry Pêche qui seront nos invités. Mais d'abord, si vous avez regardé le défilé militaire de ce matin, vous aurez sans doute remarqué qu'en plus de l'armée de l'air, de terre ou de mer, on a vu sur les Champs-Élysées l'armée cyber. Enfin presque, drones, robots et exosquelettes sont venus matérialiser cette nouvelle arme. On en parle tout de suite avec le général Jérôme Pellistrandi et Nicolas Mazzucchi.
Je récapitule. Le téléphone de Rocambole et tous ses appareils connectés ont été hackés par un type de Power Deus pour pénétrer le réseau de l'Institut Bulgakov. Mais la tentative d'intrusion a été repérée par la sécurité de l'Institut. Le programme malveillant que le hacker a installé a été supprimé par leur sécurité, sauf dans ses écouteurs. On a étudié le code de ce programme et on a découvert qu'il y avait dedans un autre morceau de code qui sert à tout autre chose que de pénétrer le réseau de Bulgakov. On va essayer de savoir quoi.
Le programme qu'ils ont installé attend d'être activé pour télécharger un autre programme, plus gros et plus dangereux.
D'accord.
Donc on va l'activer et voir où il va et ce qu'il va chercher.
Très bien. Donc, j'imagine qu'il y a un problème si vous m'avez demandé de venir.
S'il nous repère, il pourrait remonter jusqu'à Rocambole.
Le défilé militaire du 14 juillet a donc été marqué par le thème de l'innovation dans l'armée avec une animation d'une dizaine de minutes qui a vu alterner présentations et séquences vidéo, chorégraphie de drones, robots et autres exosquelettes. Voilà pour la partie matérielle. Il aurait été plus difficile de faire défiler les armes qui permettent aujourd'hui de se battre dans le cyberespace, devenu un nouveau lieu d'affrontement en plus de la terre, la mer, l'air ou l'espace. Pour s'en faire une idée, il suffit de regarder la dernière saison de l'excellente série Le Bureau des Légendes, dont on vient d'entendre un extrait. Depuis janvier 2019, une nouvelle doctrine en matière de lutte informatique a d'ailleurs été adoptée par la France, annoncée par la ministre des Armées, Florence Parly. Cette LIO, pour lutte informatique offensive, autorise désormais à riposter en cas de cyberattaque. Mais riposter sur quel terrain et quelle base juridique? Peut-on imaginer des missiles lancés du tout nouveau sous-marin Suffren en réponse à ce type d'attaque? La cyberguerre aura-t-elle lieu? Ces questions et bien d'autres posées plus généralement par les nombreuses innovations récentes, nous allons tenter d'y répondre jusqu'à 13h15 avec nos invités. Général Jérôme Pellistrandi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le rédacteur en chef de la revue Défense Nationale qui se présente comme la revue des débats stratégiques et dont le dernier numéro d'ailleurs est consacré à l'affirmation stratégique des Européens mais aussi à l'intelligence artificielle dans les combats futurs. Vous allez donc nous éclairer sur ces questions. Avec nous également Nicolas Mazzucchi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chargé de recherche à la Fondation de Recherche Stratégique en charge des domaines cyber, énergie et matières premières. Alors je le disais, le défilé de ce matin a offert une animation sur le thème l'innovation de défense. Cela fait plusieurs années que se posent des questions qui tournent autour de la cyberdéfense, des drones, des robots tueurs. L'enjeu est bien entendu stratégique, tactique, éthique. Il est aussi politique, juridique et économique. Première question pour commencer cette émission, général Pellistrandi, est-ce qu'il y a eu un saut technologique significatif pour l'armée ces dernières années? Est-ce que, pour parler le langage du moment, ces innovations, et notamment le numérique, sont venues disrupter la guerre?
Alors c'est une évolution, je dirais, permanente hein, depuis quelques années. Le numérique est arrivé il y a déjà une trentaine d'années, une vingtaine d'années. Donc, et n'oublions pas, par exemple, que Internet est né d'études pour des réseaux militaires. Donc ceci pour dire qu'il y a une évolution progressive, mais ce qui est effectivement nouveau, c'est qu'aujourd'hui, tout le spectre du théâtre de bataille, en quelque sorte, va être concerné par le numérique d'une façon ou d'une autre.
Oui, c'est vrai qu'on pourrait penser le numérique, le cyber, la cyberguerre comme une arme en particulier, je le disais, c'est-à-dire que ce serait un terrain comme la terre, la mer, l'espace ou le ciel à part entière. Et en fait, pas tout à fait, Nicolas Mazzucchi, c'est plutôt transversal, on va dire.
Alors, tout dépend en fait de l'appréhension des différents pays et des différentes cultures stratégiques. Effectivement, en France, l'appréhension qui en est faite, et c'est d'ailleurs ce qui transparaît dans le document public de lutte informatique offensive, c'est de dire que le cyber est un espace, qui, enfin est un domaine, et justement n'est pas un espace, c'est un domaine transverse à l'action, puisqu'il y a du cyber dans le domaine terrestre, dans le domaine maritime, dans le domaine aérien, le domaine électromagnétique et le domaine de l'espace extra-atmosphérique. Néanmoins, d'autres pays, d'autres visions stratégiques sont en concurrence avec cette vision stratégique française. C'est notamment le cas aux États-Unis ou en Allemagne, qui eux ont tendance à considérer que le cyber peut être un espace à part entière.
Et donc un espace de guerre à part entière, en tout cas venir modifier la façon dont on fait la guerre, plutôt que de venir appuyer une façon, on va dire, traditionnelle de combattre et de s'affronter.
Venir en fait, créer un nouveau front. Voilà, qui d'ailleurs peut s'interconnecter avec les autres, mais ce qui ouvre des portes, et notamment la porte de dire, est-ce qu'une cyberattaque peut entraîner une riposte militaire conventionnelle ?
Alors cette LIO, cette lutte informatique offensive, elle a été annoncée, je le disais, en janvier 2019, c'est une nouvelle doctrine française, c'est-à-dire que jusque-là, on ne ripostait pas, c'est ça, Général Jérôme Pellistrandi, on ne ripostait pas lors d'une attaque, si on était victime d'une attaque cyber ?
Oui, tout à fait.
En tout cas, pas officiellement.
Voilà, pas officiellement. Vous avez vos confrères de TV5 qui, il y a quelques mois, ont été victimes d'une cyberattaque avec un écran noir. Eh bien, aujourd'hui, on pourrait effectivement, à condition d'identifier l'origine, parce que le problème est là, conduire une attaque de représailles sous forme cyber ou, pourquoi pas, sous une autre forme, lorsque les intérêts de l'État seraient menacés.
Oui, non, c'est intéressant ce que vous venez de dire. On reviendra évidemment sur les formes de riposte possibles, mais vous avez dit à condition de pouvoir identifier d'où ça vient. Est-ce que c'est quelque chose qui est particulier évidemment au domaine cyber ? C'est-à-dire que quand une attaque est lancée par missile, que ce soit depuis un sous-marin ou un pays, que ce soit des attaques, voilà, on va dire conventionnelles, on sait à peu près d'où ça vient. Les attaques cyber, c'est moins le cas.
Tout à fait. C'est un peu définir la traçabilité de l'attaque. Je vais prendre un parallèle. Souvenez-vous de l'affaire Skripal en Grande-Bretagne, où un dissident russe a été empoisonné par des agents russes, il était extrêmement important de pouvoir avoir cette forme de traçabilité. Et donc, nous devons faire la même chose dans le domaine cyber. Cela veut dire qu'il faut se doter d'outils très performants, mais aussi d'hommes et de femmes très compétents. Et ensuite, bien entendu, il y a un choix et on va donner au chef, en l'occurrence au chef politique, des options pour répliquer au cas où.
Nicolas Mazzucchi.
La problématique de ce qu'on appelle l'attribution, en fait, est extrêmement complexe dans le cyberespace, parce qu'elle va mettre en jeu à la fois des éléments techniques, c'est-à-dire le maliciel qui a été envoyé, quel est son niveau de complexité, est-ce que dans le code qu'on retrouve, on est capable de retrouver des éléments qu'on a déjà vus dans d'autres codes d'anciens maliciels passés.
Donc, en fait, il faut maliciel.
Virus, vers, outils informatiques qui permettent une attaque. Voilà. Mais le maliciel étant le terme officiel français pour éviter d'employer un vocabulaire anglo-saxon. Mais ensuite, on va aussi s'intéresser beaucoup à ce qu'on appelle les tactiques, techniques et procédures, c'est-à-dire réfléchir à est-ce que la méthode qui a été employée, est-ce que le timing, est-ce que la cible visée correspondent à des choses qu'on connaît de la part d'une force armée plus ou moins adverse, d'un groupe non étatique, etc. Et in fine, une fois qu'on va rassembler ces éléments qui sont des éléments techniques et des éléments humains, on va prendre une décision qui est politique et juridique. L'attribution est toujours une décision politique et juridique et jamais réellement ou jamais entièrement une décision technique.
Alors, Général Pellistrandi, prenons un exemple. Vous avez pris l'affaire Skripal récemment, qui est plutôt une affaire, on va dire, de l'ordre du renseignement, en tout cas de fait de services secrets. Et d'ailleurs, cette question de la cyberguerre était plutôt jusqu'à présent confiée à la DGSE, la DGSI, c'est-à-dire aux services secrets français. On voit que ça se militarise, peut-être que c'est pas la bonne expression, mais on voit que ça passe à d'autres, avec le com cyber, que ça passe à d'autres armes. Si on pense, par exemple, aux attaques menées par les Russes lors des élections présidentielles américaines. Et on les a attribuées au FSB, donc au service secret russe, mais par le biais de groupes de hackers qui ne sont pas directement liés. Donc comment, à ce moment-là, faire le lien avec un État comme la Russie ? C'est-à-dire, pour être très très clair, puisque l'Europe a menacé plus ou moins la Russie lors des dernières élections européennes de représailles s'ils intervenaient trop, comment être sûr, encore une fois, et est-ce qu'à ce moment-là, ça veut dire que le domaine du cyber est plus du domaine de la dissuasion ?
Vous l'avez souligné avec l'exemple des élections européennes de manière très claire, où effectivement, il y a eu un message envoyé aux Russes en disant « attention ». Ne manipulez pas, ne faites pas n'importe quoi. Et ça veut dire que derrière, les États, la France, l'Allemagne ou d'autres États, ont mis leur dispositif, en quelque sorte, en position de regarder, d'analyser, pour pouvoir répliquer le plus rapidement possible. Et là, on voit bien encore la dimension politique du cyber concernant les élections européennes, ce n'est pas un secrétaire d'État ou un chef d'agence de sûreté informatique qui s'est exprimé, ce sont des autorités politiques qui ont très clairement dit à la Russie « Attention, on ne touche pas aux élections européennes ». Donc, il y a un jeu du chat et la souris où dans lequel, effectivement, il peut y avoir une forme de dissuasion numérique, c'est-à-dire être capable, eh bien, si vous nous faites quelque chose, nous allons répliquer chez vous.
Nicolas Mazzucchi, est-ce que ça veut dire qu'il faut voir le domaine du numérique un peu comme le domaine du nucléaire, c'est-à-dire plutôt une arme de dissuasion,
Alors, pour moi, je ne pense pas. C'est une vision très américaine. Ce sont les Américains qui parlent de cyber deterrence, donc cyber dissuasion, en employant le même terme, donc deterrence, que le terme de la dissuasion nucléaire. Néanmoins, on a plusieurs différences. Pourquoi est-ce que la dissuasion nucléaire fonctionne ? Parce qu'on connaît les effets. Voilà, on sait ce que ça fait un missile nucléaire qui tombe quelque part. Une cyberarme, on ne sait pas ce que ça fait. Parce qu'une cyberarme, elle adresse une vulnérabilité particulière dans un système particulier et la compétence ou la connaissance d'un programmeur ou d'une équipe de programmeurs. Donc en réalité, il n'y a pas vraiment de cyberarme ou il n'y a pas de cyberarme universelle. Une arme nucléaire est une arme universelle, parce que finalement, elle fera toujours le même type de dégâts. Donc déjà, première chose, on a ce problème du parallèle entre la traçabilité et la visibilité des dégâts qui sont faits. Le deuxième problème, comme vous le soulignez, c'est aussi le problème de l'attribution. C'est-à-dire que quand un missile nucléaire part de quelque part, ça se voit. Quand une attaque informatique part de quelque part, si le groupe étatique ou non étatique qui l'a envoyé est suffisamment bon, et notamment on pensera plutôt à des groupes étatiques, à des services de renseignement de pays très importants, donc qui ont beaucoup de capacités humaines et techniques, il est capable de modifier suffisamment à la fois son code et à la fois sa manière de fonctionner pour soit donner l'impression que la cyberattaque, elle venait plutôt de la Russie ou plutôt de Chine en termes techniques, soit en fait utiliser un certain nombre de passerelles qui vont donner l'impression qu'elle a une origine géographique qui est différente de son origine géographique réelle. Et en plus, troisième élément, le cyber, pour l'instant, ça ne fait pas de mort.
C'est la question que j'allais vous poser, Jérôme Pellistrandi, Nicolas Mazzucchi. Aujourd'hui, le cyber ne fait pas de mal. Est-ce qu'il y a des scénarios qui sont imaginés dans lesquels il pourrait faire des morts ? Je ne sais pas, par exemple, dans la série Le Bureau des Légendes, dont on vient d'entendre un extrait, ils imaginent une prise de contrôle d'un laboratoire pharmaceutique, d'un hôpital. Voilà, ça pourrait être des situations comme celle-ci.
C'est effectivement des types de scénarios qui sont possibles. Et donc, il y a une politique gouvernementale très forte là-dessus pour augmenter la résilience de nos capacités. Vous prenez, puisque nous sommes à Paris, vous paralysez les commandes informatiques du RER un soir de novembre à 18h, eh bien, vous aurez in fine des morts. Parce qu'il y aura des collisions de trains, il y aura des catastrophes. Et donc, il est extrêmement important aujourd'hui, et c'est la responsabilité de l'État, donc à travers les services du Premier ministre et l'Agence nationale des systèmes de sécurité et d'information, de conforter cette résilience, de faire en sorte que nos systèmes informatiques privatifs, le système de gestion d'un hôpital soit suffisamment protégé, et en même temps de développer, on va dire, des plans B qui permettraient, en cas de problème, de poursuivre l'activité.
Alors, ces scénarios sont développés, Nicolas Mazzucchi, parce qu'on est déjà en cyberguerre. En tout cas, c'est ce que dit Florence Parly, la ministre de la Défense. La guerre cyber a commencé, la France doit être prête à combattre, nous le sommes et nous le serons.
Moi, j'ai beaucoup de mal avec ce terme de cyberguerre, et y compris avec le terme de cyberterrorisme. Parce que justement, enfin, quand on prend la définition juridique de la guerre, c'est 1000 morts militaires par an. Or, on n'y est pas. Pour l'instant, le cyber, c'est un espace très important géopolitique, voire militaire, de disruption. C'est-à-dire qu'on va réussir à empêcher les gens de faire des choses. On va limiter l'accès à des informations, limiter l'accès à des systèmes d'information, voire les détruire quand on peut. Mais pour l'instant, c'est gênant. C'est pas suffisamment dangereux pour qu'on soit dans la cyberguerre. Et là, il reste encore, pour l'instant, un cliquet à franchir. Alors, ça ne veut pas dire qu'on le franchira jamais. Au contraire, hein, l'évolution de la technologie fait que mécaniquement, on va s'en rapprocher de plus en plus. Mais pour l'instant, on n'y est pas. Donc, il y a beaucoup de cyber-conflictualité. Elle est permanente. Et finalement, le domaine cyber, c'est celui où on a le plus de conflictualité parce qu'on a des tas d'acteurs qui vont s'y affronter. Mais on est sur des acteurs qui restent justement pour l'instant, et c'est finalement un peu leur avantage, et j'allais dire, c'est peut-être un peu pour ça qu'on les laisse, pour un certain nombre d'entre eux, tranquilles, sous le niveau de la guerre. Et donc, oui, on monte en capacité, on monte en compétence. Vous l'avez dit sur la partie de lutte informatique offensive, mais encore depuis plus longtemps sur la partie de lutte informatique défensive. C'est-à-dire, c'est ce que disait le général Pellistrandi, la capacité à sécuriser nos réseaux, la capacité à être capable d'avoir une politique d'hygiène informatique et numérique qui soit consistante, qui soit permanente. Donc, on est obligé de monter en capacité parce qu'on sait qu'on va arriver jusque-là, mais pour l'instant, et heureusement, nous n'y sommes pas.
On n'y est pas, général Pellistrandi, donc on a encore moins au stade de réponse physique à une cyberattaque. Récemment, les États-Unis ont lancé une série d'attaques cyber contre l'Iran suite à l'affaire du drone. Ils ont annulé la frappe militaire, mais bref, est-ce qu'on pourrait imaginer les États-Unis ou Israël lancer contre l'Iran, contre des attaques cyber, une attaque physique ?
Pourquoi pas ? Mais là, je voudrais revenir un petit peu dans l'histoire, parce que on réinvente un peu l'eau tiède. Il faut se souvenir, par exemple, que on vient de fêter le 75e anniversaire du débarquement, il y avait des avions, des bombardiers américains qui, au large du Pas-de-Calais, déployaient des paillettes en papier d'aluminium qui devaient tromper les radars allemands. C'est ce qu'on appelait la guerre électronique. C'est-à-dire que, en fait, ce sont des procédés. On va utiliser toutes sortes de procédés avec, effectivement, le progrès technologique à chaque fois. Donc, je pense que il pourrait y avoir, effectivement, ce type d'utilisation demain. Mais, en fait, on va élargir la palette et prendre des outils qui permettront de répondre à chaque cas de figure.
Oui, mais général Pellistrandi, puisque vous nous invitez à la réflexion un peu plus stratégique, le brouillard de la guerre, pour reprendre cette expression, est beaucoup plus intense, beaucoup plus développé dans l'espace cyber, comme on le dit depuis le début, que dans un espace physique.
Oui, bien entendu. Alors, il y a aussi un point qui est très important dans lequel parfois il y a de la confusion. C'est-à-dire qu'il y a la cyberconflictualité dont nous venons de parler et il y a la cybercriminalité. Et la cybercriminalité, elle est là, en fait, pour faire de l'argent. Et donc, il faut faire attention parce que on peut avoir des actions de cybercriminalité extrêmement sophistiquées, extrêmement élevées, mais dont l'objectif est purement pécunier. Et donc, il faut faire attention justement parce que une cyberattaque à vocation criminelle n'a pas vocation à avoir une réplique en quelque sorte militaire. Et là, on est dans l'ordre effectivement policier, judiciaire, douanier.
Nicolas Mazzucchi, vous êtes
oui,
d'accord?
Tout à fait. Et en plus, ce qu'il faut noter, c'est qu'on a de plus en plus une forme, j'allais dire, de porosité entre ces milieux. C'est-à-dire qu'on voit des groupes cybercriminels dans un certain nombre de pays qui montent en compétences, qui deviennent des groupes très forts, des groupes très compétents, justement parce qu'il y a un appât du gain et qu'il est beaucoup plus facile d'aller faire, j'allais dire, un cyberbraquage que d'aller faire un braquage physique. Et donc, on peut commencer à voir, on l'a vu il y a quelques temps déjà, ces groupes cybercriminels va finalement devenir des cybermercenaires. Et donc, se louer leur capacité à des acteurs étatiques ou non étatiques, ce qui permet aussi, d'une certaine manière, encore d'augmenter le brouillard de la guerre. Et donc de permettre à des États, qu'ils aient des capacités en propre ou non, d'utiliser ce qu'on va appeler des proxys, donc en fait d'utiliser des paravents, qui vont être ces groupes cybercriminels pour un certain nombre d'entre eux, pour conduire leurs propres attaques, pour après pouvoir, en termes de droit international, dire mais ce n'est pas la responsabilité de l'État, c'est la mafia X ou Y qui agit.
Alors là, on est face à une évolution qui est une évolution de la guerre en règle générale, si on pense à la guerre contre le terrorisme, et qui est propre aussi à la guerre numérique, à la guerre cyber, c'est ce flou qui existe entre le civil et le militaire. C'est véritablement une problématique à laquelle est confrontée l'armée aujourd'hui, général Pellistrandi.
Oui, et on le voit très bien, par exemple, au Sahel. Vous savez, nous sommes engagés dans l'opération Barkhane face à un ennemi djihadiste. Mais cet ennemi djihadiste, eh bien, il est, je dirais, multiforme. C'est-à-dire qu'il va agir à la fois pour des objectifs d'ordre politique, voire d'ordre religieux, mais aussi d'ordre criminel, les trafics. C'est-à-dire qu'il va alimenter, il va s'alimenter en quelque sorte, par exemple, par le trafic d'êtres humains, et on a la problématique de la Libye, justement, des migrants, pour à la fois acheter des armements, pour exercer des activités de type parfois criminel, mais aussi pour étendre son territoire. Donc c'est la complexité auquel nous sommes confrontés, et il faut effectivement, par un travail très important en amont et collectif avec nos partenaires, pouvoir identifier ce qui est du ressort du terrorisme, de la criminalité, du trafic d'hommes, et de ce qui est également idéologique.
Je le disais, Nicolas Mazzucchi, puisque votre spécialité à vous, notamment, c'est le domaine cyber, c'est particulièrement vrai dans ce domaine-là. Si on pense, par exemple, aux enjeux propres aux innovations technologiques, à la télécommunication, on a vu la question de la 5G. Et récemment, c'est-à-dire que le leader en la matière pour installer les réseaux 5G, c'est un Chinois, c'est Huawei. Et on a vu les Américains refuser. On sait que la question se pose en Europe aussi, parce que ça pose des enjeux de souveraineté et des enjeux stratégiques. C'est-à-dire que demain, s'il y a une guerre ou en tout cas un affrontement avec la Chine, si c'est une entreprise privée chinoise qui domine et qui maîtrise les réseaux en France, c'est problématique.
Alors en plus, dans le cas de Huawei, une entreprise privée dont les liens avec le Parti communiste chinois sont très forts. Donc elle est privée certes, mais elle n'est pas si loin de son étaxaïs. Je pense que c'est l'une des questions qui se posent. Mais on est plus globalement dans cette question de Huawei face à justement une espèce de révolution globale un peu, on va dire, dans la géoéconomie mondiale, du fait que les puissances technologiquement les plus avancées maintenant sont plus forcément exclusivement les puissances de l'espace euro-atlantique, globalement appelons-les les pays de l'OTAN. Et face à maintenant des pays dits émergents, au premier rang desquels la Chine, qui deviennent donc de grands fournisseurs de technologie, avec de la technologie qui va devenir critique dans un certain nombre de réseaux, parce qu'il faut penser que de plus en plus, on va numériser tous les réseaux stratégiques, les réseaux d'eau, les réseaux d'électricité, de gaz, etc., hein, tout ce qu'on appelle le smart, smart cities, smart grids, etc. C'est sûr que si on a des systèmes de pilotage à distance qui sont fournis par des entreprises proches d'États desquelles nous ne sommes pas forcément sûrs, du simple fait, par exemple, que nous ne sommes pas alliés avec elles, ça pose de vrais problèmes. Et au sein même des pays européens, on voit qu'il y a des différences d'acceptabilité justement de cette question de la 5G. Certains qui disent non, ça posera pas vraiment de problème parce que de toute façon, c'est de l'infrastructure civile et vous comprenez, on n'aura pas de souci avec ça. Ou il y a d'autres pays qui disent attention, on va quand même regarder. Parce que là, justement, comme il y a un peu cette espèce de floutage entre le civil et le militaire, bah, si demain on doit avoir une attaque qui passe par le cyber, si c'est une attaque qui doit vraiment faire des dégâts, bah, elle ciblera de l'infrastructure civile. Elle ciblera du réseau électrique, du réseau de transport, comme le disait le général Pellistrandi. Donc voilà, il y a tout ce phénomène en fait qui s'interpénètre.
Oui, c'est une évolution, général Pellistrandi, qui est propre aussi à l'époque. C'est-à-dire qu'on voit des sociétés privées, notamment en matière de nouvelles technologies, prendre une importance et un poids de plus en plus important. Les liens entre les entreprises privées et l'armée, c'est permanent. On parle de complexe militaro-industriel depuis un certain nombre d'années quand même. Voilà, on pense à des sociétés comme Thales, comme Atos en France pour ces questions-là de cyber. Mais ce sont des sociétés qui sont très identifiées, qui sont liées et qui ne vont pas ou peu vers la question, vers le civil.
Oui et non, parce que Thales, par exemple, outre les programmes militaires, est un très gros fournisseur d'équipements pour des infrastructures civiles. Il faut par exemple savoir que les systèmes de contrôle de métro automatique, y compris à Paris, sont fournis par Thales. Donc il y a une diversification de ce type d'industrie. Mais et je crois que c'est ce qui est très intéressant, c'est que nous sommes désormais dans des industries duales et dans lesquelles il faut pouvoir faire sortir l'innovation. Et c'était d'ailleurs la thématique du défilé que l'on a vu ce matin, le premier tableau sur l'innovation, qui voulait justement montrer cette capacité d'innovation et en particulier de pouvoir valoriser nos start-up, pouvoir donner des capacités de création, d'innovation à des entreprises, des jeunes start-up, des ingénieurs, sans forcément passer par des grands groupes industriels dont on sait qu'ils peuvent avoir des pesanteurs dans la conduite des programmes. Et ce matin, c'était très clairement illustré.
Oui, Nicolas Mazzucchi, le général Pellistrandi, rappelait tout à l'heure le rôle de l'armée américaine dans le développement d'Internet. Il y a évidemment cette relation, on va chercher dans l'armée, dans les investissements qu'on fait dans les nouvelles armes, dans l'armée, aussi un moyen de développer des nouveaux emplois, des nouvelles technologies.
Alors ça, c'était un phénomène, on va dire, très historique, qui s'est passé d'ailleurs pas exclusivement aux États-Unis. C'est le cas en France, au Royaume-Uni, même en Russie, en Chine, etc. On a eu
l'aviation, les communications par la radio,
les micro-ondes, enfin voilà, tout ça sont des innovations qui proviennent du monde militaire. Mais pendant très longtemps, et le monde militaire d'ailleurs continue à être l'un des principaux bailleurs de fonds de la recherche dans l'ensemble des pays de la planète, et y compris pour des recherches qui sont pas forcément directement liées à des armements, qui peuvent être liées à des tas de choses. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que maintenant, on a à la fois la continuité de ce mouvement-là, donc on va dire plutôt du militaire vers le civil, mais on a aussi un mouvement inverse qui se produit, de plus en plus du civil vers le militaire, avec les armées qui aujourd'hui sont de plus en plus intéressées à aller regarder ce qui se fait dans des entreprises qui n'ont aucun lien avec le monde militaire et essayer, on va dire, de capter de l'innovation et de transformer de l'innovation pour justement voir à partir de ce que vont faire des start-up dans des domaines très variée, et voir comment on va pouvoir militariser ça au service du combattant, au service de sa mission.
Général Pellistrandi, on a parlé de cette cyberguerre. Parlons aussi un petit peu pour les minutes qui nous restent de l'appui que peut apporter le numérique aux opérations plus classiques. Ça doit être un amplificateur des effets militaires traditionnels, dit le général Lecointre, qui est donc le chef d'état-major des armées depuis 2017. Quel rôle aujourd'hui, je le disais, votre revue a consacré une partie à la question de l'intelligence artificielle aujourd'hui? Est-ce que ces innovations, c'est une façon quoi d'aider sur le point d'un point de vue opérationnel, la prise de décision, la logistique?
Oui, et je reprends ce que nous avons vu ce matin avec notamment les trois véhicules blindés Griffon, cette nouvelle génération. Ce sont des véhicules très performants, blindés. Qu'est-ce que va apporter le numérique et l'intelligence artificielle? Eh bien, ça veut dire que l'équipe qui est dans le véhicule numéro 1 sera en permanence où sont les deux autres véhicules, le 2 et le 3. On connaîtra en permanence les niveaux de carburant. Et donc, en fait, on va partager l'information. Et c'est ça ce qui est extrêmement important, parce que en partageant l'information, ça donnera à l'unité qui est déployée sur le terrain et donc à l'autorité militaire et in fine au chef politique, un avantage sur l'ennemi. Et ça veut dire aussi, par exemple, qu'on va pouvoir leur transmettre des informations sans se préoccuper de savoir si l'information elle va aller au véhicule 1, au véhicule 2 ou au véhicule 3. On va partager l'information, et ce qui va permettre d'accélérer le rythme de décision et d'être le plus efficace possible pour répondre à la mission qui a été donnée.
Nicolas Mazzucchi.
L'intelligence artificielle, et même le numérique d'ailleurs, puisqu'on va parler plutôt de la combinaison des deux, on peut les déployer dans l'ensemble du champ militaire. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut les déployer dans une partie très opérationnelle, comme l'a dit le général Pellistrandi, mais il faut aussi penser à tout un tas d'autres choses. L'entraînement, par exemple. On va pouvoir simuler de manière très fine des comportements, par exemple, d'opposants, des comportements de populations au sein desquelles on pourrait être amené à intervenir, donc pour arriver sur un entraînement de plus en plus fin. Simuler ce qu'on appelle de la maintenance prédictive, c'est-à-dire qu'à partir de toute une myriade de capteurs sur des véhicules, être capable de savoir avant que ça arrive quand tel train de roulement est susceptible de lâcher, tel problème peut survenir. Dans le suivi médical des combattants, avoir un suivi médical en temps réel pour savoir justement s'ils sont en train d'avoir un certain nombre de problèmes, qu'ils soient psychiques ou qu'ils soient physiologiques.
Mais alors, encore une fois, comment toutes ces innovations changent la façon de faire la guerre? Il y a une notion, par exemple, qui est importante dans ces questions-là, je rappelle l'histoire, c'est la notion de contact. Et on a l'impression que la guerre est moins en moins une question de contact. Alors on pense aux drones, évidemment, on pense à la question numérique qu'on vient de développer. Est-ce que c'est une fausse impression? Est-ce que c'est une réalité? Et qu'est-ce que ça engendre comme réflexion, évidemment, stratégique et même juridique? Puisque tout le droit de la guerre, c'est quand même encadré. La guerre, c'est quand même encadré de normes juridiques. Et penser sur cette notion-là. Et donc, si tout ça explose, eh ben, il faut repenser.
Oui, alors je crois justement qu'il faut être très prudent, parce que au final, il y aura le contact. Et je prendrai l'exemple de l'opération qui, ce printemps, a permis de libérer nos deux otages au Burkina Faso. On a mis en œuvre tous les moyens les plus performants d'acquisition du renseignement, des drones, des échanges d'informations, des photos satellitaires numérisées. On a mis tous ces éléments, mais in fine, nous avons envoyé des hommes. Et parmi eux, il y en a deux qui s'y sont tombés au combat pour protéger et sauver les otages. Et c'est cette dimension qui est extrêmement importante. Et d'ailleurs, on l'a encore vu ce matin au défilé. On commence par l'innovation et on finit par les blessés. Et cette dimension, elle doit rester extrêmement importante. On ne fait pas la guerre uniquement derrière des écrans, très loin, parce que la guerre, elle est au contact. Alors, bien entendu, on aura des moyens qui permettront peut-être de diminuer l'empreinte au sol. Mais, au final, sachant que l'opération militaire n'est que le prélude à la reconstruction d'un pays. Quand nous sommes au Sahel, l'objectif n'est pas d'occuper le Sahel. L'objectif, c'est de permettre la reconstruction politique des États pour qu'ils assurent leur sécurité. Donc, penser qu'on pourrait faire une guerre à distance, on s'illusionne, on aura toujours des troupes sur le terrain qu'il faudra doter des meilleurs moyens avec du numérique, de l'intelligence artificielle pour gagner sur le terrain et aboutir à une solution politique.
Nicolas Mazzucchi, on avait un temps intitulé cette émission, puis on a changé. Qui défilera le 14 juillet lorsqu'il n'y aura plus de soldats? Voilà, c'était une façon un peu ironique de se demander si demain il pourrait y avoir une guerre sans hommes. On comprend avec ce que vient de dire le général Pellistrandi que ça ne sera probablement pas le cas. Et c'est même pas souhaitable.
Non, tout à fait. En fait, les expériences de la guerre, on va dire, de la post-guerre froide, nous ont montré que toutes les théories qui se fondaient, alors à l'époque, dans les années 90 et 2000, c'était beaucoup la guerre aérienne, qui se fondait exclusivement sur l'emploi d'un outil à distance, en fait, faisait de l'illusion. Voilà, que c'était, il n'était pas possible de conduire une guerre hors du terrain, hors du sol. Qu'à un moment ou à un autre, il fallait être effectivement sur le terrain, et que ça, c'est de rester une donnée immuable. Après, effectivement, on peut considérer quasiment depuis l'invention de l'arbalète, que bah, finalement, le contact diminue. Mais le contact restera toujours là, parce que de toute façon, il y aura besoin, à un moment ou à un autre, y compris en termes politiques d'ailleurs, de marquer sa présence sur un territoire, et de la marquer physiquement. Et ça, on ne pourra pas y échapper.
Est-ce que c'est un enseignement aussi, général Pellistrandi, de la guerre que les États-Unis ont menée en Irak, et notamment du tournant avec Barack Obama, qui a mené la guerre des drones, c'est comme ça qu'on l'a appelé ?
Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que nous, armée française, nous avons une très longue tradition de ce type d'opération. Et je crois qu'aujourd'hui, et comme le disait Nicolas, in fine, qu'est-ce que nous faisons ? Nous allons permettre de reconstruire l'école ou le marché dans le village en plein milieu du Sahara. Et pour cela, ça veut dire qu'il faut de la sécurité. Et que donc, si on ne faisait ça qu'à coup de bombardement, nous ne parviendrons jamais à rétablir ce sentiment de sécurité, qu'il faut le faire, bien sûr, avec les pays alliés, pour pouvoir reconstruire l'école et le marché.
Oui, mais là, vous vous placez dans un type d'opération bien particulier, général Jérôme Pellistrandi, de guerre asymétrique, d'intervention à l'appel d'un pays allié, puisque c'est ce qui s'est passé dans l'opération du Sahel. Mais si demain, on est amené, par les Xi Jinping et les Trump du futur, qui vont développer leur propre système d'armée, par exemple de robots tueurs, on est amené, voilà, à faire face à ce type d'évolution, que va faire l'armée française?
Alors, c'est exactement les images il y a quelques jours, quand le président de la République a lancé le sous-marin nucléaire Suffren. C'est un signal qui est envoyé, bien sûr, c'est de dire voilà, le programme, c'est une étape décisive pour la Marine nationale, mais il envoyait aussi un message à tous nos partenaires ou éventuellement adversaires. Hein. Voilà ce que nous sommes capables de faire, et c'est ce qui nous permet aussi, ce qui permet au président de la République de pouvoir discuter avec un Erdogan, un Xi Jinping, parce que il y a cette capacité militaire, cet outil militaire qui conforte notre diplomatie et notre politique.
Un mot de conclusion, Nicolas Mazzucchi.
Le mot de conclusion, c'est que la guerre s'accélère, elle se modifie évidemment, mais les principes de Clausewitz, à savoir qu'on fait toujours la guerre pour agir sur un cerveau humain, restent vrais, que ce soit dans le cyber ou ailleurs.
Et que c'est la continuation de la politique par d'autres moyens ?
Tout à fait.
C'est toujours cela. Merci beaucoup, général Jérôme Pellistrandi et Nicolas Mazzucchi, d'avoir participé à cette première partie du magazine du week-end. On se retrouve dans un instant.
Off. Why you hide your face from me? Make your fucking mind up, I am sick of waiting patiently. How come you the best to me? I know you the worst for me. Boy, you sweet as sugar, diabetic to the first degree. My spotty sink seas, got me on the fence seas. Old squad and getting the travel bag by Balenci. Big dog hitting big willies on the 6-speed. You so motherfucking dangerous. You so motherfucking dangerous. You got me by my neck. That's why these other niggas lame to us. Cause all these other niggas lame as fuck. They show them no respect. When the time's right, yeah. When the time's right, baby, I shut up for you. Oh, you faking your mad. Oh, you wanna go home cool, you better call you a cab. I ain't taking you home, yeah, I'm brushing you off. Cause
Jones, it's Parker, it's Combe. You're my favorite garçon, don't leave, stay right here. Yeah, I want you right near. You invited me to breakfast, why the fuck your ex here? Well, let's see if you round to God around this time next year. Motherfucking dangerous, you so motherfucking dangerous. You got me by my neck, so I start to think it's lame as fuck.
A Boy Is A Gun, extrait d'Igor, le tout dernier album du rappeur californien Tyler, The Creator.
Le magazine du week-end, Raphaël Bourgois.
Plus personne n'a aujourd'hui le monopole du verre, et c'est aussi cela, le dépassement des anciens clivages. Je connais les soupçons me concernant. Je viens de la droite, j'ai travaillé dans une grande entreprise française du nucléaire, je suis élu d'une ville industrielle, je ne pourrai donc ni rien comprendre, ni rien faire. Je trouve que c'est faire peu de cas de lecture ou de culture politique. Peu de cas de mon expérience au Havre et peu de cas de ces deux années de gouvernement. Mais oui, j'ai mis du temps, comme d'autres Français, à considérer que ces enjeux étaient aussi urgents que la défense de l'emploi ou la sécurité. Aujourd'hui, les jeunes nous bousculent. Dans nos familles, partout dans le monde et en Europe. Partout, nous constatons les dérèglements climatiques, la pollution de l'air, des sols et des mers qui menacent notre santé et la biodiversité.
Le virage écologique est donc amorcé par le gouvernement qui multiplie les annonces et les initiatives depuis quelques semaines. Et donc ce discours de politique générale du Premier ministre Édouard Philippe, c'est à la fois une conséquence des élections européennes et du grand débat national qui ont montré l'importance que prennent ces questions écologiques dans l'esprit des citoyens. C'est aussi une nécessité dont les engagements pris par la France lors de la COP21 sont loin de pouvoir être atteints. C'était en tout cas ce que déclarait fin juin le tout nouveau, là aussi, Haut Conseil pour le climat qui a appelé la France à revoir son action. Des mesures concrètes ont été prises récemment, comme l'annonce de l'abandon de la controversée mine d'or en Guyane, l'éco-contribution sur les billets d'avion ou le projet de loi contre le gaspillage présenté cette semaine. Mais on le sait, malgré les bonnes volontés, les mesures sont souvent difficiles à faire passer. Alors pour trouver de la légitimité politique et démocratique, on innove avec la création d'une convention citoyenne pour le climat. Quels en sont les contours, le fonctionnement et les objectifs? On en parle avec nos deux invités qui auront la lourde tâche de piloter cette convention. Laurence Tubiana, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'ex-négociatrice pour la France lors de la COP21. Vous êtes économiste et diplomate française et professeure de la chaire développement durable à Sciences Po. Avec vous Thierry Pêche, bien connu des auditeurs de France Culture. Bonjour Thierry.
Bonjour.
Puisque vous participez évidemment à l'Esprit Public le dimanche, l'émission d'Émilie Aubry. Mais enfin là, vous êtes en vacances. En tout cas, l'émission est en vacances. C'est la grille d'été. Vous êtes également le directeur de Terra Nova et donc co-président avec Laurence Tubiana de ce comité de gouvernance de la Convention citoyenne. Alors, c'est pas pour le climat, je me suis trompé en l'annonçant, c'est pour la transition
écologique.
Écologie, voilà, je m'en suis rendu compte en le disant. Alors, la convention citoyenne doit commencer en septembre ses travaux. Ses conclusions sont attendues pour début 2020. Pourquoi fallait-il cette forme, selon vous, Laurence Tubiana, d'une convention citoyenne qui est une forme un peu originale?
Elle est importante, cette forme d'une convention, c'est-à-dire une assemblée de citoyens qu'on va tirer au hasard et qui seront censés représenter la diversité de la société française, c'est que ces questions de transition écologique, elles sont très complexes. Et en même temps, on voit que une mesure après l'autre ne permet pas de faire le chemin qui est nécessaire pour atteindre des objectifs très importants. La France est engagée à la neutralité carbone en 2050. Elle veut accompagner un mouvement mondial de changement très profond des économies. Et ça ne se fait pas seulement par des mesures ou même des politiques publiques décidées par en haut. Et il y a tellement de controverses sur ces sujets. À la fois une difficile perception de là où on est pour de vrai la société française avec ses innovateurs, mais aussi les gens qui craignent ce changement, que avec d'autres, nous avons pensé déjà depuis quelques mois qu'il fallait introduire une nouvelle modalité de débat public, moins classique pour la France, et qui permette au long cours, c'est-à-dire avec un débat structuré dans le temps, de permettre à des citoyens, encore une fois représentant la diversité de la société française, d'instruire ces questions et de formuler un certain nombre de propositions.
Thierry Page, sont donc 150 citoyens tirés au sort. En quoi c'est une innovation, comme vient de le dire Laurence Tubiana?
Alors, ce qu'on va essayer de faire ne s'est jamais fait en France. Et on pourrait même dire ne s'est jamais fait tout court, même si des expériences à l'étranger sont très voisines. Celles auxquelles on peut comparer l'initiative présente, portées en général sur des questions un peu moins ambitieuse que celle qui nous est soumise, puisque la lettre de mission du Premier ministre, je le rappelle, demande à la Convention citoyenne pour la transition écologique de faire des propositions pour que les émissions de gaz à effet de serre de ce pays soient réduites de 40% d'ici 2030 par rapport à ce qu'elles étaient en 1990. Qu'est-ce qui est réellement nouveau ? Ce qui est réellement nouveau, c'est qu'on va créer une France en petit, d'une certaine façon. Ces 150 personnes seront représentatives de la diversité de la société française et seront informées de telle sorte qu'elles pourront elles-mêmes avoir le premier mot et faire des propositions au gouvernement sur tous les sujets qui sont susceptibles de croiser l'objectif donc qui nous est assigné. Ce qui est nouveau aussi, c'est que au fond, les formes classiques de la démocratie, démocratie représentative, qui n'est pas d'ailleurs, je dirais, contestée ou remplacée par ce genre de nouvelles procédures, les formes classiques de la démocratie peine aujourd'hui à construire du consensus, à fabriquer un projet commun sur les sujets qui nous occupent. Parce que c'est le paradoxe dans lequel on se trouve, c'est ce qu'a commencé à décrire Laurence Tubiana, c'est que je pense que une très grande majorité de Français aujourd'hui ont conscience du péril climatique, en tout cas que la conscience de ce péril croît et s'élargit chaque mois, chaque semaine. Et pour autant, il n'y a pas de consensus sur les solutions, sur les moyens d'agir contre, sur, disons, les politiques et l'ambition qu'il faudrait réunir pour lutter efficacement contre. Et donc, dans ce contexte, il faut trouver le moyen de produire du consensus. Et ça, je pense que des citoyens tirés au sort, des gens ordinaires de bonne foi qui n'ont pas envie que leurs enfants grandissent dans un monde inhabitable, sont susceptibles de montrer à leurs compatriotes, à leurs concitoyens, qu'un consensus est possible.
Alors on voit que les modalités de la discussion, de l'organisation sont importantes, donc on va y passer encore un petit peu de temps si vous le voulez bien, Laurence Tubiana. On comprend qu'il y a deux enjeux majeurs pour vous dans les jours, les semaines qui viennent, puisque les travaux doivent commencer début septembre. C'est d'abord de reproduire cette France en petit, telle que vous l'avez dit, trouvant les 150 personnes, et ensuite pour les informer, le choix des experts. Et donc il y a déjà évidemment des esprits chagrins qui expliquent que c'est déjà beaucoup trop, presque comme pouvoir sur la délibération, c'est-à-dire la capacité à orienter les débats. Comment est-ce que vous allez procéder pour choisir ces experts et pour choisir ces citoyens? Alors on a compris que c'était le tirage au sort, mais pour faire en sorte que ça reproduise vraiment la France en miniature.
Alors d'abord sur l'information de ces citoyens. Il va sans dire qu'il y a une diversité d'expertise. En même temps, il y a des choses qui aujourd'hui sont validées par l'expertise scientifique et sur lesquelles on ne va pas revenir. On ne va pas entamer un débat sur l'existence ou non du changement climatique et son origine humaine. Donc ça, non. Mais en revanche, la qualification du phénomène, les différents chemins pour y arriver, les différentes solutions, l'importance des problèmes qui sont liés à l'alimentation, à l'agriculture, au transport, au logement ou à d'autres domaines, tout cela, il faut les informer de façon objective, en même temps que d'ailleurs que le débat sur les sources d'énergie qui fait souvent débat en France et polémique, c'est un grand sujet
avec la question nucléaire, évidemment.
Voilà, affectionné. Mais ça ne sera pas non plus là-dessus, cette question. Mais du coup, pour qu'on soit... Donc on va s'assurer, c'est la diversité de ce comité de gouvernance qui représente différentes sensibilités, va permettre de s'assurer de la diversité des expertises, et puis surtout la transparence. France, parce que on va rendre transparents nos choix. Il faut faire des choix, on peut pas inviter 2000 experts. Donc à la fois, donc on va inviter des experts en essayant de regarder quels sont les points de vue sérieux et divers. C'est le sérieux est très important, et aussi de les rendre transparents, c'est-à-dire que ce sera sur le site. On envisage d'ailleurs, c'est pas encore bouclé bien sûr, la manière dont on va rendre transparent, y compris ces débats, les exposés des experts, tout ça. La transparence va être la manière de répondre sérieusement. En ce qui concerne le tirage au sort, c'est une chose compliquée, puisque à la fois on va définir des grands critères classiques. Il faut que la France représente la diversité de genre, que la France, qu'on ait les classes d'âge, qu'on ait aussi les différents niveaux de diplôme, puisque c'est un bon marqueur, la place des personnes dans la société. Il faut aussi qu'on regarde aussi les cas très extrêmes de gens qui n'ont pas de domicile, par exemple. On s'est posé la question. Donc on va essayer d'être au plus près de cette photographie de la société française, en essayant aussi d'aller chercher ceux qui sont plus difficiles à joindre, qui n'aiment pas parler en public, qui se sentent marginalisés évidemment par rapport à la société française. On pense notamment aux territoires ruraux qui sont mal connectés aux grandes agglomérations. Tout ça, on va essayer de le faire pour représenter dans ce tirage au sort, dans les choix qui seront faits, cette diversité.
Oui, parce qu'on entend Thierry Pech, cette convention, c'est vraiment la fille à la fois du mouvement des Gilets jaunes et de la nécessité de respecter les engagements de la COP21.
Oui, je voudrais revenir sur la question des experts.
Je vous en prie.
Les experts, le comité que nous présidons, Laurence Soubiana et moi-même, va en proposer. Mais la convention elle-même, les citoyens pourront en demander. Nous ne serons pas les seuls auteurs de ces travaux. Au contraire, elle aura probablement une autonomie d'initiative, de décision. Et donc, je pense qu'il faut tenir compte de ça. Il ne s'agit pas de faire à la place des citoyens, ni de penser à leur place. Il s'agit de les mettre dans les meilleures conditions pour qu'ils puissent faire des choix éclairés. C'est pas du tout pareil. Alors, votre question,
C'est une question plus de l'ordre sociopolitique, on va dire ça, contexte. C'est que cette convention, elle est à la fois, on l'entend, avec la nécessité de la transparence, avec la demande de participation des citoyens. C'est à la fois la fille des Gilets jaunes, mais aussi du mouvement des Gilets jaunes, mais aussi du respect de la COP21, des engagements pris à la COP21, qui se sont manifestés aussi dans une frange des Français qui ont manifesté ces derniers mois.
Alors, c'était intéressant, ce mouvement des Gilets jaunes, au regard des enjeux écologiques, parce que évidemment ça a commencé par la récusation de la taxe carbone, qui était perçue comme une politique écologique, utile, en tout cas au financement de la transition. Et en même temps, on a bien vu que dans ce mouvement même, il y avait des gens très convaincus de la nécessité de la transition.
Qui ont lancé la pétition.
Y compris les Gilets citoyens qui ont lancé la pétition pour demander une convention citoyenne comme celle que nous allons tenir. Donc c'est un mouvement très ambigu, mais qui reflète bien les ambiguïtés du pays aujourd'hui. C'est-à-dire qu'une politique écologique qui serait purement technocratique, administrée d'en haut, parfaitement centralisée, probablement ne rencontrerait pas les attentes du pays et en tout cas ne susciterait pas suffisamment d'adhésion pour que ça se passe bien. Et c'est ce qu'on a constaté avec la taxe carbone. Elle était en théorie très bien, même si la trajectoire qui avait été fixée était très ambitieuse, enfin, on pourrait en discuter. Et elle a rencontré de très vives oppositions, et des oppositions souvent très légitimes, de gens qui disaient « on me demande des efforts à moi, on n'en demande pas à l'aérien, on n'en demande pas au gazole dans le BTP, enfin bon, je donne ces exemples, il y en aurait d'autres. On me demande des efforts à moi qui prends ma voiture tous les jours et qui n'ai pas le choix de faire autrement, pourquoi est-ce que je contribuerais davantage ?» Donc j'ai envie de dire aujourd'hui, faisons l'inverse, partons des citoyens, donnons-leur les éléments du problème et questionnons-les sur les meilleurs chemins pour lutter contre quelque chose contre quoi ils ont envie de lutter, qui est le réchauffement climatique.
Oui, je crois que au fond, enfin, comme d'autres, j'ai fait les marches pour le climat. Et dans les marches pour le climat, il y avait des personnes qui venaient des Gilets jaunes. Et on voit bien que la question pour tout le monde, c'était simplement comment on fait et comment on fait de façon juste. Et je crois que celle qui avait initié la pétition contre la taxe carbone, Priscilla Dowski, dans le libellé de sa pétition, elle disait très juste, moi je m'engage pour l'écologie, je veux juste que ça soit pas injuste et surtout qu'on me donne les moyens de faire. et ce qui est vrai pour les gens qui sont évidemment coincés avec leur voiture. Et donc je trouve, ce que je trouve très intéressant dans ce rapport entre un gouvernement nécessairement qui gouverne et la société française, c'est qu'on voit des mouvements et des allers-retours. L'affaire du siècle qui dit au gouvernement, vous ne faites pas assez, j'essaie de vous citer en justice, ce qui est arrivé dans beaucoup de pays, hein, Allemagne, Pays-Bas, d'autres. Et en même temps, un mouvement de la rue qui s'inquiète et qui demande davantage d'action. Et certainement aussi une polarisation sur certains sujets, notamment la question du transport et du recours à la voiture. Donc il faut tout mettre sur la table, à plat, mais aussi en se fondant sur, je crois, cette bonne foi des citoyens français qui veulent ce changement, parce que tout simplement, sinon on court à la catastrophe, mais qui veulent comprendre comment ils vont y aller et surtout comment on va co-construire les solutions et les politiques qui vont y amener. Donc c'est pas seulement, comme ça a été trop souvent, l'interpellation des citoyens dans la société française, faites ceci ou faites cela, les petits gestes, faites un effort personnel, c'est comment on co-construit ensemble, dans la société, avec les différentes institutions, ce que pourrait être un peu le cadre politique de demain.
Alors précisément, de quoi va-t-on parler lors de cette convention, Thierry Pêche? Est-ce que les sujets sont fixés? Est-ce que ça va être des sujets plutôt de l'ordre du quotidien, comme vient de l'exprimer Laurence Tubiana, sur la question des petits gestes? Est-ce qu'il faut aller au-delà et poser des questions plus massives, de changement de modèle, puisque aujourd'hui on voit que c'est un peu le débat entre les écologistes et le gouvernement, c'est-à-dire dans le discours d'Edouard Philippe qu'on a entendu tout à l'heure, il dit ensuite « je ne vais pas me faire passer pour qui je ne suis pas, je crois à la croissance » et donc un discours qui n'est pas accepté aujourd'hui par une certaine frange les écologistes.
Je trouve ce débat un peu artificiel entre ceux qui sont partisans des petits gestes et ceux qui sont partisans des grandes politiques. On a besoin des deux. Je crois que quand on fait de mauvais petits gestes, c'est pas bon. Et quand on fait de bons petits gestes, c'est bon. Et qu'en même temps, ça suffit pas. Il faut des grandes politiques. Tout ça n'a pas beaucoup de sens. Parce que je voudrais développer juste sur ce point. Ce sont aussi les modes de vie qui sont en cause. C'est pas simplement l'action de l'État. On a laissé se développer, on a tous contribué à l'organisation de modes de vie qui sont peu soutenables, voire pas soutenables. Lorsque les Français s'éloignent chaque année un peu plus de leur lieu de travail et donc doivent parcourir des distances toujours plus grandes parce que les centres-villes sont chers, là où se concentrent les emplois, parce que on a favorisé l'étalement urbain, on laisse se développer des modes de vie, une organisation territoriale des ménages qui est très consommatrice de ressources naturelles, très émettrice de CO2. Donc ce sont aussi ces modes de vie qui sont en cause. C'est de tout ça dont il faut parler. C'est pas simplement la responsabilité de l'État. Mais il y a aussi une responsabilité de l'État parce que ces enjeux ont des aspects très systémiques qu'on ne peut pas régler simplement à l'échelle des individus. Et c'est bien sûr les sujets qu'on sera obligé d'aborder dans le cadre de la Convention, même s'il nous est difficile de vous dire aujourd'hui de quoi on va parler parce que le comité n'a pas encore réellement structuré le cadrage thématique de la Convention et parce que la Convention elle-même pourra demander à ce que certains sujets soient évoqués, même si nous-mêmes, nous n'y avons pas pensé.
Non, Subiana, quel sujet vous souhaitez-vous, alors, à ce moment-là, voir abordé lors de cette convention?
Il y a différents... Je crois que, quand on regarde un peu ce qu'on a essayé de faire en France, pas nouveau, de faire des politiques environnementales, il y a eu beaucoup d'exercices, hein, le Grenelle de l'environnement auquel j'ai participé, le débat sur la transition énergétique auquel j'ai participé également, mais on voit qu'on se heurte à un certain nombre d'obstacles qui sont à la fois peut-être le fait qu'il faut penser les problèmes et les politiques et les solutions plus globalement, de façon plus systémique, puisqu'on a affaire à un changement systémique, comme le disait Thierry, mais aussi parce que on a sans doute mal identifié les obstacles à ce changement social, qui est un changement économique et social. Donc déjà, a priori, il faut que, avec cette convention citoyenne, enfin, si les citoyens en sont d'accord, qu'ils travaillent sur ces obstacles à partir du moment où éventuellement ils seront d'accord sur, justement, à partir de leur vécu sur un certain nombre de domaines de leur mode de vie, quelles sont les conditions pour eux de pouvoir changer. Et qu'est-ce qu'ils souhaitent, comment ils souhaitent répartir les responsabilités, quels seraient les outils pour eux qui les aident à changer, et aussi bien sûr réfléchir sur tous nos domaines de mode de vie. Il y a beaucoup de domaines de mode de vie dont les décisions, les choix sont largement liés aux normes sociales et très peu pensés. Donc rendre conscient, organiser une réflexivité de ces citoyens sur eux-mêmes, sur pourquoi on se nourrit de cette façon-là, pourquoi est-ce qu'on se transporte de cette façon-là, je crois, pourquoi est-ce que, bon, l'accumulation d'objets, peut-être, toute cette chose, je crois que si on veut prendre cette transition écologique au sérieux, on a besoin de cette réflexivité de la société sur elle-même, et on n'a pas tellement d'outils pour le faire. Donc celui-là, parmi d'autres, en est un important.
Thierry Pech, associer les citoyens, si je comprends bien, c'est aussi une façon de les responsabiliser, c'est-à-dire que de prendre conscience individuellement et collectivement qu'il va falloir faire des concessions, puisque la complexité, vous l'avez un peu dit, c'est que tout le monde est d'accord, il y a une sorte de consensus scientifique, on va dire, sur le réchauffement climatique, la nécessité de faire quelque chose pour que nos enfants ne vivent pas dans un monde invivable, justement, et en même temps, il n'y a pas de consensus politique, c'est-à-dire que dès qu'une mesure est prise, par exemple, taxe carbone, voilà, il y a des groupes où, collectivement, l'ensemble des citoyens qui se rebiffent. Et donc, on a l'impression que cette convention, c'est aussi un moyen d'accumuler une sorte de capital politique pour que les décideurs puissent prendre des décisions indiscutables.
Je ne sais pas s'il n'y a pas de décision indiscutable en démocratie. Bon, la démocratie se nourrit d'alternatives et de conflits, mais des décisions, en tout cas, qui soient plus consensuelles, ça me paraît important. Je vais vous donner l'exemple irlandais. L'Assemblée des citoyens irlandaise, qui ressemble beaucoup à ce que nous sommes en train de faire avec la Convention citoyenne pour la transition écologique. Donc une assemblée de 100 personnes, dont 99 citoyens tirés au sort en 2016, est saisie d'un certain nombre de questions, le droit à l'avortement, mais aussi une question climatique. Et cette assemblée dit la fiscalité carbone, c'est bien, mais à deux conditions. La première, c'est que les ménages exposés à la précarité énergétique ne soient pas pénalisés. Et la deuxième, c'est que les ressources qui sont collectées de cette façon soient toutes intégralement affectées à la transition écologique. Bon, je ne sais pas si c'est la solution pour la France, mais ce que je sais, c'est que cette procédure a beaucoup simplifié le travail politique en aval. Pour les décideurs, la démocratie représentative n'est pas remplacée par ces procédures. Au contraire, elle est introduite, elle est informée. Et surtout, ces procédures, c'est le point, c'est un des nombreux points avec lequel je suis en très étroit accord avec ce qu'a dit Laurence, c'est que Laurence Touyana, elles permettent aussi de développer la réflexivité de la société sur elle-même. C'est-à-dire la société n'est pas un enfant à qui on vient donner des leçons, c'est un être qui pense collectivement et qui peut se saisir elle-même de ses propres failles, de ses propres contradictions, si vous voulez. C'est extrêmement important. Moi, je crois, par exemple, c'est une position personnelle, je crois que se cherche en ce moment une sorte d'âge post-matérialiste. Voilà, on est en train de sortir de l'ère des objets, de l'obsession de la propriété des choses, de l'accumulation des choses. On voit bien que, par exemple, sur les ronds-points, cet automne, il s'est passé tout à fait autre chose qu'une émotion matérialiste. Au contraire, c'est une émotion sociale, de rencontre, d'identification. Donc, c'est aussi cette quête qui doit trouver forme dans ce type de procédure.
Mais alors, justement, est-ce que dans ce moment post-matérialiste, il y a une voix qui se trace une voie pour l'action. On peut penser, prenons un exemple concret, qui est la loi anti-gaspillage qui a été présentée le 10 juillet, donc pour une économie circulaire. Le texte fixe un certain nombre d'objectifs de recyclage de plastique à 100% d'ici à 2025. Invité au matin d'été d'Olivia Gesbert, donc sur France Culture, le sociologue Baptiste Mont-Saint-Jean et l'ingénieur Philippe Biwix faisaient remarquer que le problème, c'était justement de rester dans cette notion de recyclage et qu'il fallait aller vers d'autres façons de produire, produire moins, etc. Et donc, on voit bien qu'il y a toujours cette question de changement de modèle, la capacité à véritablement changer de modèle, Laurence Touyana.
Oui, alors évidemment, ce qu'il y a de très difficile, c'est de dire on change de modèle, enfin, sauf avoir des versions surplombantes de la société, on change de modèle,
voilà, révolutionnaire.
C'est le modèle, on y va, soit révolutionnaire, soit autocratique. Hein. Et en même temps, on voit bien ce bouillonnement à l'intérieur de la société, ça traverse beaucoup de générations, les innovations sociales, effectivement le retrait du monde de la consommation matérielle, cette idée qu'on va avoir honte de prendre l'avion, beaucoup de choses, enfin,
on a vu ce mouvement se développer en Suède, par exemple.
Voilà, ce mouvement qui, Royaume-Uni aussi, c'est en train de gagner beaucoup. Hein. Ça ne veut pas dire que c'est un mouvement de masse, hein. Mais disons, cette question est posée de la même manière que la question de la consommation de viande est posée aujourd'hui. Elle était extrêmement marginale il n'y a pas 3 ans. Aujourd'hui, c'est une question que tout le monde se pose. Donc ce travail de la société sur elle-même, bon, il continue. Et là, au fond, cette convention citoyenne, elle le prend, j'espère, le saisira un moment et pourra aussi informer ces politiques publiques pour dire, bon, au fond, d'abord, on voit qu'il y a des critères de justice sociale. Ça, c'est ce que les gilets citoyens ont dit de façon très explicite. On n'aurait même pas besoin d'une convention citoyenne pour le poser. La taxe carbone telle qu'elle était conçue, elle était régressive. Si on faisait rien pour corriger cet facteur régressif. Mais il y a plein d'autres choses. Et je crois qu'on a besoin énormément d'innovations politiques dans ce pays, comme dans beaucoup de démocraties matures. Et c'est formidable qu'à chaque fois que ces processus interviennent, on voit surgir des prises de position, des analyses tout à fait innovantes. Je prends un exemple que j'adore, celui du Texas, État pétrolier par excellence, qui est aujourd'hui le premier producteur d'énergie éolienne. Surprise. Ce changement, enfin ce renversement dans la perspective de ce qui était bien pour le Texas, est intervenu après une convention citoyenne imposée difficilement, mais qui a montré qu'au fond, les citoyens, d'accord, ils sont dans le pétrole, mais aussi, ils envisagent l'après-pétrole. Et au fond, ils le souhaitent, parce que c'est extrêmement un état très pollué. Donc, ouvrons les vannes hein, de la réflexion sociale, de cette réflexivité, et on va trouver des choses, à mon avis, très intéressantes.
Thierry Pache.
Si on veut renouer la confiance, puisque c'est un des enjeux de cette affaire tout de même, il faut que la confiance circule dans les deux sens. Or souvent, quand on parle de la défiance française, on met en avant la défiance des représentés à l'égard de leurs représentants, et on ne met pas en avant la défiance inverse des représentants à l'égard des représentés. Et le fait de vouloir installer cette convention citoyenne est d'abord un geste de confiance à l'égard des citoyens qui la composeront. C'est ça qu'il faut cultiver. Je pense que la confiance peut se restaurer si elle circule dans les deux sens. Et il faut commencer dans l'autre sens. Il faut commencer par donner aux représentants l'occasion de manifester leur confiance aux représentés et leur donner la parole.
C'est très important, enfin, ce que dit Thierry, parce que même si il se part souvent de mots très respectueux pour la société, les citoyens, etc., il y a quand même une estimation que la société ne va pas comprendre. Qu'il va falloir l'inciter, lui faire accepter des choses, parce que au fond, la sphère politique ou le monde des institutions est plus intelligent que la société, ce qui est évidemment faux. Enfin, en tout cas, je le pense très profondément. Et il y a un mot qui sera, à mon avis, interdit. Encore une fois, je n'ai pas vérifié ça avec Thierry, mais c'est pas de créer de l'acceptabilité sociale pour des politiques qui seraient décidées par en haut, surtout pas. D'abord parce que ça ne marcherait pas, et puis parce que ce n'est pas un problème d'acceptabilité. Depuis longtemps, les politiques ont vu les politiques environnementales comme comment est-ce qu'on va faire accepter la taxe carbone. Non, il faut qu'elle soit, qu'effectivement elle réponde à des critères qui vont être d'ailleurs produits par exemple par ses citoyens, et puis aussi accompagnés par d'autres mesures et d'autres politiques qui vont permettre de faire les changements. Donc prendre la société pour ce qu'elle est, c'est-à-dire beaucoup plus intelligente que ce qu'on ne pense, je crois que c'est le bon pari de confiance qu'il faut faire.
Thierry Pache, ce dialogue direct qui s'instaure finalement entre l'exécutif et le citoyen, ou les citoyens, c'est une forme de réponse quoi, à la crise de la démocratie représentative, libérale, telle qu'elle semblait devoir s'imposer, aller au tournant des années 90, après la chute du mur de Berlin. Voilà, on a le sentiment que ça allait être le modèle général et généralisé. On se rend compte qu'il y a un certain nombre de problèmes et de remise en cause justement de la représentativité. Et là, on renoue ce dialogue direct.
Alors, il y a en fait deux crises qui coïncident, qui se sont donné rendez-vous là dans ce début du 21e siècle. La grande crise écologique, dont on vient de parler longuement, et la crise démocratique. Moi, j'ai eu 20 ans en 1989, au moment où le mur de Berlin tombait, enfin un an avant presque. Et à l'époque, on pensait que la démocratie libérale représentative était le modèle hégémonique. C'était l'époque où Fukuyama écrivait sur la fin de l'histoire. Mmh. On faisait des gloses pieuses comme ça, toute la journée, sur ce modèle, etc. C'est pas du tout ce qui s'est passé. La Chine a fait sortir des centaines de millions de gens de la pauvreté sans voter une seule fois. Et du sein même des démocraties occidentales libérales et représentatives est montée une contestation populiste du libéralisme précisément qui était dans une composante de ce modèle. Et donc nous sommes aujourd'hui à un moment d'épuisement progressif du modèle libéral représentatif. Et c'est ça qu'il faut renouveler. Je pense qu'on ne peut le renouveler qu'en élargissant fortement le champ de la délibération collective, de la participation civique au débat, de la construction de la volonté commune et du consensus. Donc, c'est pour ça que moi, je pense que le défi climatique et le défi démocratique se tiennent de façon indissociable. J'ai dit, et je voudrais le répéter ici, je suis persuadé que soit le climat et la démocratie se sauveront ensemble, soit ils dépériront ensemble. Il n'y a pas d'autre chemin, et en particulier, il n'y a pas de chemin pour une dictature écologique ou je ne sais quoi.
Non. Le fascisme vert, c'est souvent
non, tout à fait.
Une critique qui a été faite aux oui, premiers oui, écolos. Laurence Tubiana.
Oui, ça continue d'ailleurs régulièrement. Il y a des fascistes, des choses comme ça. Bon, en même temps, tout de même, ceux qui déversent, parce qu'il y a aussi les lobbies verts, j'ai vu ça il n'y a pas longtemps, enfin, ceux qui déversent vraiment des milliards et des milliards de dollars sur l'opinion, l'influence, etc., c'est quand même, ça vient plutôt des sociétés pétrolières ou gazières, plutôt que des groupes verts qui seraient si puissants. Mais c'est vrai que, comme il n'y a pas de solution autocratique, Dieu merci, parce que c'est aussi un rapport complexe avec la nature qu'il faut rétablir ou établir dans un monde où l'homme est à la fois dedans, comme une espèce parmi d'autres, et en même temps, évidemment, le surplombe. Et je trouve qu'aussi, ce qui a changé, et ça a été dit dans beaucoup d'autres débats précédents celui-là, c'est aussi le rapport entre la science et la société, la science et la politique. C'est parce que, aujourd'hui, ceux qui sonnent l'alerte, sur à la fois bien sûr la crise climatique, mais aussi les liens entre notre civilisation industrielle et la santé. La question de la perception de la destruction de ces ressources naturelles, c'est aussi les scientifiques qui l'apportent. Hein. C'est des choses qu'on peut voir, observer, mais surtout ou pour lesquelles c'est une information scientifique poussée qui nous permet d'y avoir accès. Et ce rapport des experts... Ça a été d'ailleurs un moment de tension entre est-ce que ces experts sont les bons, est-ce qu'ils nous disent la vérité, qui croire. Ça a participé hein, de cette crise de la démocratie, parce que qui doit-on croire? Des politiques, des experts, des scientifiques, des organisations non gouvernementales, des organisations intermédiaires. Et c'est aussi ça qu'il faut arriver à... Il faut raccrocher les bouts. Je veux prendre juste quelque chose qui me paraît très très significatif, et en particulier en France, mais c'est vrai dans beaucoup d'autres pays européens. C'est que les scientifiques aujourd'hui, ils se sentent obligés de sortir dans la rue pour pouvoir se faire entendre. Et je vois beaucoup de mes collègues dans différentes institutions scientifiques qui pensent, soit qu'ils renoncent à leurs travaux de recherche, c'est le cas de Jim Hansen à Columbia, un grand climatologue américain, pour dire, on m'écoute plus comme scientifique, donc il faut que je fasse partie du mouvement social pour faire bouger les choses. Donc cette dialectique-là, elle est, je crois, importante pour comprendre comment on restaure une confiance sans avoir une expertise scientifique d'un côté, des institutions de gouvernement de l'autre et la société en troisième, dans un troisième lieu.
Thierry Pelch, vous vouliez réagir.
Oui, je veux réagir parce qu'il y a deux débats en fait qui se nouent l'un à l'autre. Il y a un débat sur la place de la parole scientifique dans le débat démocratique, c'est celui dont vient de parler Laurence, et on voit bien que, en particulier sur le climat, cette parole scientifique, elle n'est arrivée à s'imposer que lorsqu'elle s'est présentée au public comme une démarche, comme l'exercice d'un doute rationnel. Et c'est la communauté scientifique réunie, faisant part de ses doutes, progressant, éliminant des incertitudes, posant de plus en plus d'arguments sur la table, qui a permis d'élargir la conscience du péril climatique. Mais ce sont des scientifiques qui ne se sont pas présentés au public comme détenteurs de la vérité. Ça s'est pas passé comme ça, et ça c'est important. L'autre point que je voulais signaler, c'est que le progressisme classique tel qu'on l'a connu en Occident depuis 200 ans, a beaucoup reposé sur un mariage très étroit entre la science et la technique. Et ce qui se passe depuis 30 ou 40 ans, c'est que ce mariage...
Oui, il est contestable.
Il est contestable. Les scientifiques se retournent contre la technique. Et c'est très sain, c'est très bien. C'est-à-dire que le chemin du progrès n'est plus celui du mariage de la technique et de la science, c'est celui de l'examen critique de la technique par la science. Et ça change tout, vous savez, l'Occident, le progressisme techno-scientifique occidental a commencé sur les bords du bassin de l'Arsenal de Venise, quand Galilée allait discuter avec les ingénieurs qui faisaient les bateaux de la Venise de l'époque, qui était une grande puissance. Cette discussion enthousiaste a aujourd'hui pris des formes plus tapageuses, et c'est très bien.
Et c'est lié à la crise démocratique.
Je crois.
Un dernier mot, Laurence Tubiana, puisqu'on arrive au bout de l'émission, sur qu'est-ce qui se passe maintenant? Quel est le calendrier dans les semaines, les mois à venir pour cette convention?
Alors, on travaille d'arrache-pied pour trouver les bonnes méthodes, et dès que les garants de ce débat, enfin de cette convention seront nommés, leur soumettre un peu nos propositions. Bien sûr, trouver ces citoyens qui voudront bien se prêter à l'exercice, ça va supposer beaucoup de travail, évidemment. Ensuite, dessiner aussi les contours et donc démarrer probablement tout début octobre les premiers travaux tous ensemble, et en même temps concevoir comment ce débat en enfin, ce débat à 150, rayonne plus largement dans la société française. Alors, j'ai parlé de transparence tout à l'heure, mais aussi on verra peut-être d'autres méthodes pour que ce débat soit relayé dans les familles, dans les réseaux sociaux, etc.
Eh bien, écoutez, on restera très très attentif. Merci beaucoup Thierry Pêche et Laurence Tubiana d'être venus nous présenter donc cette convention citoyenne pour la transition écologique. On va voir comment ça se passe. Le magazine du week-end s'est terminé pour aujourd'hui et pour ce week-end. Demain, dans les matins, c'est Benoît Bouscarel qui prend la relève. Il sera question de moralisation de la vie politique. Vous retrouverez aussi la toute première grande traversée de l'été consacrée à Louis-Ferdinand Céline et c'est produit par Christine Le Serre. Merci à toute l'équipe. Programmation Chloé Rossignol, coordination Hugo Boursier. À la préparation, c'était Isée Sorel et Benjamin Teinturier. À la réalisation aujourd'hui, Luc-Jean Reynaud. À la prise de son, Adèle Cagla. Vous pouvez évidemment réécouter cette émission sur le site de franceculture.fr, la podcaster, vous abonner au podcast. Dans quelques instants, il sera 13h50, l'heure de retrouver les idées claires par Nicolas Martin. Aujourd'hui, la société est-elle plus violente? La société est-elle plus violente qu'avant?
Bombes lacrymogènes contre jets de pierre. Des affrontements d'une violence inédite depuis des années à Toulouse.
Des procès pour viol conjugal se tiennent régulièrement devant les assises.
Il y a un développement spectaculaire en France aujourd'hui de ce qu'on appelle la violence gratuite.
Affrontements hebdomadaires entre manifestants et forces de l'ordre, agressions antisémites, racistes, homophobes, attentats terroristes, généralisation des incivilités, si l'on en croit certains responsables politiques ou les médias d'information continue, notre société connaîtrait des niveaux de violence inégalés. Mais qu'en est-il vraiment? Le monde d'aujourd'hui est-il vraiment plus violent que celui d'hier? Bonjour Jean-François Dortier.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, fondateur et directeur de la revue Sciences Humaines. Est-ce que la société est plus violente qu'avant?
C'est un mot fourre-tout, le mot violence, dans lequel on peut y intégrer aussi bien une bagarre, une bousculade dans des cours de récréation, qui donne lieu d'ailleurs aujourd'hui souvent à des dépôts de plaintes, et puis un génocide, comme le Rwanda, avec 800 000 morts. Donc il faut quand même distinguer les choses pour mesurer les évolutions. Je pense qu'il faut distinguer au moins 5 types de violences très différents. La première, c'est la violence de guerre. Il n'y a plus de guerre entre les États aujourd'hui. Il y a des guerres civiles, comme au Yémen. Il y a des conflits armés, comme au Mali. La France n'a pas connu de guerre depuis la guerre d'Algérie. Si on mesure depuis la Deuxième Guerre mondiale, il y a un déclin continu du nombre de morts dans les conflits armés. La guerre étant, avant les deux guerres mondiales, un phénomène quasiment courant de toutes les sociétés humaines. Et continue. Le deuxième grand phénomène, c'est celui des répressions d'État. On l'a oublié aujourd'hui, mais encore au XXe siècle, il y a eu des régimes extrêmement répressifs qui ont tué, enfermé, détruit leur propre population. C'était le cas au Cambodge. Aujourd'hui, il y existe encore une répression. On le vit encore en France aujourd'hui, certains s'en plaignent, mais c'est sans commune mesure avec ce qu'a pu être d'autres époques et d'autres lieux, cette répression d'État. Avec la démocratisation des sociétés, elle est également fortement en déclin. Le troisième phénomène, c'est celui de la criminalité violente. En France aujourd'hui, depuis les années 2010, il y a entre 800 et 900 morts par an par homicide. C'était le double dans les années 90, c'était 4 fois plus dans les années 60. Qu'est-ce que c'est ces morts violentes? Eh bien, ça peut être ce qu'on appelle des homicides querelleurs, une bagarre qui finit, de gens avinés qui finit par un coup de couteau ou un coup de fusil. Ce sont des règlements de compte entre gangs. Également, il faut le signaler, ça nous permet de passer à la cinquième type de violence, c'est la violence domestique. C'est-à-dire essentiellement des hommes qui cognent et qui parfois tuent leurs femmes ou leurs propres enfants. Là, on a un paradoxe, c'est qu'on n'en a jamais autant parlé, mais c'est certainement pas l'attestation d'une augmentation du nombre de faits, mais du fait qu'on est devenu beaucoup plus sensible.
Ce que j'entends à Jean-François Dortier, c'est qu'effectivement, statistiquement, sur à peu près tous les fronts de violence, à part peut-être effectivement ce que vous venez de souligner sur la violence domestique, auquel on est plus sensible et qui est plus déclarée alors qu'avant elle était tue, les chiffres nous indiquent que la violence est en baisse, et pourtant, le sentiment de violence est très élevé. Comment expliquer ce paradoxe?
Oui, alors il faut quand même signaler qu'il y a des poches de violence et d'ultra-violence qui existent tout de même, qui alimentent le fait et c'est la première raison que les médias peuvent en parler. On peut parler de la guerre au Yémen, on peut parler de serial killers, et c'est même une des raisons d'être des médias, c'est de parler des phénomènes aussi troublants que la violence. Rien n'est mieux pour un média qu'un avion qui tombe du ciel, qu'un tremblement de terre ou qu'un crime. Il y a une deuxième raison. C'est justement cette distorsion entre la perception et la réalité vient du fait qu'on est beaucoup plus sensible à la violence. Et là, c'est un cas typique pour la violence domestique. Elle est sans doute beaucoup plus faible, le fait de frapper ses enfants ou de frapper son épouse, puisque c'est souvent à sens unique, hein, bien sûr que ça se passe. Eh bien, ça ne signifie pas que pour autant on n'en parle pas et qu'on n'est pas sensible. Au contraire. Par exemple, les agressions sexuelles ont explosé de 25% depuis l'affaire Weinstein. Mais elles ont explosé dans les dépôts de plaintes, pas dans les réalités. Et puis, il y a d'autres phénomènes aussi qu'il faut signaler quand même, dont je n'ai pas parlé, mais qui sont quand même des phénomènes réels, qui est d'une violence qui n'est pas forcément physique, mais qui est une sorte de halo de violence qui existe à travers la violence verbale. Le harcèlement, faut pas l'oublier, hein. Le harcèlement dans les cours de récréation, c'est une forme de violence. Beaucoup d'enseignants se plaignent de la violence des enfants qui passent par des insultes, des crachats, également des phénomènes comme le terrorisme. Le propre du terrorisme, c'est son nom qui l'indique, c'est de terroriser des populations. Vous avez beaucoup plus de chances de mourir en vous étranglant avec une cacahuète que d'être tué par un terroriste. Mais le propre du terroriste, c'est de créer un climat de terreur. C'est-à-dire pour un crime qui va peut-être faire des dizaines de morts, il y a un climat de terreur qui va se répandre. Un autre phénomène, c'est que si nous sommes dans des sociétés pacifiées, c'est-à-dire quelqu'un comme moi qui suis un baby-boomer, je n'ai jamais fait la guerre et je me bats jamais, on adore aussi en même temps parler de la violence. Parce que la nature humaine est ainsi faite. Regardez le nombre de jeux vidéo qui présentent finalement une violence quasi quotidienne, où on a le sentiment que le monde pourrait être à feu et à sang quand on regarde les pages des journaux, nos écrans, alors qu'en réalité, on vit une société qui est relativement pacifiée.
On voit aussi souvent, et on entend beaucoup dans les médias, le fait que certains types de violences, notamment contre des communautés, on dit que le niveau de violence antisémite n'a jamais été aussi élevé en France, le niveau de violence islamophobe, homophobe aussi. Est-ce que c'est un prisme déformant ou est-ce que aujourd'hui, effectivement, ce type d'agression-là a tendance à se généraliser, Jean-François Dortier?
Quand vous dites qu'il n'y a jamais eu autant d'antisémitisme, c'est pas vrai par rapport aux années 30. Alors, est-ce qu'il y a une remontée de l'antisémitisme? Oui, les faits déclarés depuis quelques années le montrent. L'homophobie, on en parle beaucoup, par contre, elle a considérablement diminué. Parce qu'on est aujourd'hui beaucoup plus tolérant à l'égard des homosexuels. Donc là, il va y avoir ensuite des variations sur certains types de populations. C'est ce que j'appelle justement les poches de violence au sein d'un monde pacifié. Il y a quand même des variations.
Il y a aussi une autre forme de violence qui revient souvent, et notamment en période électorale, c'est celle liée aux incivilités, des violences qui sont très facilement instrumentalisées par une certaine frange de la classe politique. Alors est-ce qu'aujourd'hui, pour parler de la société française, c'est une société qui est plus incivile qu'elle ne l'était il y a 20, 30, 40 ou 50 ans?
On a oublié que dans les années 70, il y avait des manifestations paysannes qui étaient extrêmement violentes. On a oublié que dans les années 70 aussi, il y avait des mouvements quasi-insurrectionnels avec des mouvements de guérilla. Il y avait d'abord du terrorisme qui était d'une autre nature que celui d'aujourd'hui. Il y avait du terrorisme basque, du terrorisme corse, du terrorisme irlandais dans d'autres pays qui a fait beaucoup de morts. Et puis, il y avait aussi des climats parfois quasi-insurrectionnels dans certaines manifestations qui étaient très brutales. Aujourd'hui, ressurgit par certains moments donnés comme ça des flambées qu'on appelle incivilité, mais ce mot même là indique que c'est quand même un bas niveau historiquement par rapport à ce qu'ont vécu les sociétés.
Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir une forme d'instrumentalisation du sentiment de violence?
Bien sûr. Je vous le dis déjà, il y a une partie qui est responsable des médias et sans doute liée à une complaisance du public qui adore cela. Et puis, c'est pour un parti politique, quel qu'il soit, évidemment, utiliser dans un sens la violence, par exemple, condamner la répression policière, ou alors entretenir un climat de quasi-chaos par des insurrections populaires, c'est du pain béni pour les partis politiques.
Pour conclure, Jean-François Dortier, est-ce que notre rapport à l'information aussi fonctionne à la manière d'un prisme déformant? Est-ce que le fait qu'on soit connecté tout le temps à l'information en continu sur les réseaux sociaux fait ressurgir ou naître ce ressenti, ce sentiment de violence qui est du coup partiellement décorrélé de la réalité statistique?
J'ai pas l'habitude de dire du mal des médias et c'est pas mon rôle, mais le propre des médias aussi, c'est de traiter de l'actualité. Et donc, le premier miroir déformant de la réalité, ce sont les médias de toute nature, qui ne parlent pas du monde tel qu'il est, mais du monde qui va mal. C'est aussi son rôle. Les journaux sont nécessaires pour penser le monde, mais il faut aussi prendre le recul de l'histoire, des comparaisons entre les sociétés, pour prendre la juste mesure des choses, ce qui nous donne d'ailleurs une certaine sérénité.
Eh bien, ce sera sur cette sérénité que nous conclurons. Merci beaucoup, Jean-François Dantier. Je rappelle que vous êtes sociologue, fondateur et directeur de la revue Sciences Humaines.
Merci.
Les idées claires par Nicolas Martin, à retrouver en réécoute, podcast et vidéo sur franceculture.fr.